Alors, le message est clair, c'est corrigé. En effet, il y a trois animateurs et Marie, mon épouse, va en faire partie. Vous pouvez vous imaginer comment les enfants vont avoir du fun juste en regardant cette vidéo-là, n'est-ce pas? Donc, vous voulez être présent au groupe Connexion si c'est la seule raison, si c'est pour que vos enfants puissent participer à Sunday Party. Amen? En fait, ce n'est pas la seule raison. On a d'autres raisons. Puis c'est ça le but de la série de discours qu'on fait depuis la semaine passée. Il va y avoir un autre message apporté par Dominique King dimanche prochain pour essayer de vous inciter puis vous convaincre de l'importance des groupes Connexion et pourquoi est-ce que l'équipe pastorale et tout le conseil d'anciens à l'Église de Sentier, on est convaincus que les groupes Connexion, on en a besoin ici à l'Église Le Sentier. Cette semaine, on veut approcher la question des groupes Connexion sous un angle un peu différent de la semaine passée qui a été apportée par Eric. Puis on aimerait examiner pourquoi on veut démarrer des groupes Connexion, puis comment on veut le faire. Puis pourquoi est-ce qu'on pense que la manière de le faire va nous aider à expérimenter vraiment les connexions les plus significatives dans nos vies. La connexion avec Dieu, la connexion avec les autres autour de nous, dans la famille de Dieu, et la connexion avec les gens dans la communauté. On est convaincu que c'est le désir de Dieu qu'on puisse connecter toujours plus avec Dieu, avec les autres et avec la communauté autour de nous. Puis l'angle qu'on va utiliser ce matin, c'est l'étude d'un texte et de quelques textes dans l'Évangile de Jean, où on voit Jésus mettre un accent particulier sur le fait que Jésus est venu de Dieu, il a été envoyé par son Père céleste afin qu'on puisse connecter avec lui, afin qu'on puisse connaître le Père et connecter avec lui. Et à notre tour, Jésus, même dans l'Évangile de Jean, nous montre qu'il nous appelle à faire comme lui, à devenir ses imitateurs et à devenir nous-mêmes des agents de connexion. Dans Jean chapitre 1, verset 18, on lit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Personne n'a jamais vu Dieu, c'est la situation initiale de chacun d'entre nous. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, peut-être votre version dans la Bible a « dans le sein du Père », une expression qui signifie « dans une grande intimité, une relation d'intimité avec le Père », est celui qui l'a fait connaître. C'est intéressant parce qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, seulement dans l'Évangile de Jean, le quatrième livre du Nouveau Testament, plus de 34 références au fait que Jésus a été envoyé par son Père. Et en lien avec ça, l'idée que la raison pourquoi Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous révéler le Père, c'est pour qu'on puisse connaître son Père. Et la manière de le connaître, c'est d'être venu sur la terre. Et Jésus va dire, par exemple, dans Jean chapitre 14, verset 9, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Jésus est venu nous montrer qui était Dieu. Et il avait absolument besoin de venir nous faire connaître Dieu, parce que chacun d'entre nous, par nature et par choix même, on est déconnecté de Dieu. Verset 18 nous dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Personne n'a jamais vu Dieu. En fait, on va lire, si vous voulez bien, ensemble, Jean chapitre 1, versets 14 à 18, et on va partir de là, on va examiner exactement qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que, par nature et par choix, chacun d'entre nous, chaque être humain est déconnecté de Dieu. De là le besoin qu'on soit connecté, n'est-ce pas? Donc, au verset 14 de Jean, chapitre 1, on lit ce qui suit. « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Donc, ce passage-là nous enseigne, entre autres, que nous avons besoin d'être connectés avec Dieu et que Jésus, c'est ce qu'il est venu faire. Mais on va juste prendre quelques pas en arrière pour comprendre pourquoi on a autant besoin d'être connecté avec Dieu. Et la raison nous est donnée un petit peu plus tôt dans le chapitre de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 3, où Jean nous dit que tout ce qui existe a été créé par la parole. On comprend ici, par les versets 14 à 18, que la parole, c'est Jésus-Christ. Hein? Au verset 14, on nous dit « La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » C'est une expression, la parole, pour faire référence à la révélation même de Dieu, sa auto-révélation dans la personne même de Jésus-Christ. La parole s'est faite homme, ça c'est Jésus-Christ. Elle a habité parmi nous. Au verset 17, on lit « La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Donc on voit au verset 14 que la parole qui s'est faite homme et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, la même expression est utilisée en parlant de Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, on comprend que la parole, c'est Jésus. Donc, si on retourne au verset 1 à 3, le texte nous dit que tout ce qui existe a été créé par la parole, donc par Jésus lui-même. Mais notre choix et notre décision, nous, les êtres humains, ça a été de rejeter la parole et notre Créateur. Tout ce qui existe, incluant nous-mêmes, a été créé par Jésus. Et nous avons été créés par Jésus pour être connectés avec Dieu, pour être connectés avec Jésus. Mais nous avons décidé volontairement de nous déconnecter de Dieu. On voit ça dans le livre de la Genèse, où Adam et Ève ont choisi de désobéir à leur Créateur. Mais la Bible utilise différentes expressions pour décrire qu'est-ce que ça veut dire d'être déconnecté de Dieu. Dans ce sens-là, dans le sens relationnel que j'utilise en ce moment. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit que nous sommes morts par nos offenses. Et dans le même chapitre, on nous parle que nous sommes des ennemis de Dieu. Ce que ça veut dire d'être déconnecté de Dieu, c'est toutes ces choses-là. Dans Jean chapitre 3, l'évangile de Jean qu'on est en train d'examiner ce matin, verset 36, on nous parle que d'être déconnecté de Dieu, c'est d'être sous la colère de Dieu. Et au verset 5, ça nous parle que la lumière est venue dans les ténèbres, pour briller dans les ténèbres, la lumière qui éclaire tout homme. Donc, d'être déconnecté de Dieu, c'est d'être mort par nos offenses, d'être ennemi de Dieu, sous la colère de Dieu et d'être dans les ténèbres. Même dans Jean chapitre 1, verset 17, le passage qu'on vient de lire ensemble, on nous dit que la loi a été donnée à travers Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. C'est intéressant ici la comparaison et la comparaison qui est faite entre la loi qui est donnée par Moïse et la grâce et la vérité qui a été donnée par Jésus-Christ. La loi, qu'est-ce que c'est en réalité? Ici, on parle de la loi de l'Ancien Testament, donc les cinq premiers livres de la Genèse, le Pentateuque, comme on dit. La loi a été donnée par Moïse. Là-dedans, on trouve, entre autres, les 10 commandements et plusieurs autres lois qui sont données au peuple d'Israël. Mais la loi, en quelque sorte, c'est le standard de bien et de mal. Le standard de bien et de mal. Et la Bible nous dit, par exemple, dans Galates, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Galates, que la loi nous enseigne, un peu comme un pédagogue ou comme un guide. Elle nous enseigne que nous sommes des transgresseurs de la loi. Tu vois, s'il n'y avait pas de loi ou de standards de bien et de mal, on ne pourrait pas savoir si ce qu'on fait est bien ou mal. Puis on n'aurait pas la connaissance, on n'aurait même pas la notion de savoir que ce qu'on a fait est une transgression, ou qu'est-ce qu'on fait comme acte ou comme parole est mal. Donc la loi elle-même, qui a été donnée par Moïse, nous apprend comme un enseignant, comme un pédagogue, que chacun de nous, nous sommes des transgresseurs de cette loi-là. Si la loi n'existait pas, on ne pourrait pas savoir qu'on l'a transgressée. On ne pourrait pas savoir qu'on a violé la loi. Mais le fait que Dieu nous donne la loi à travers Moïse nous enseigne, comme un professeur ou un pédagogue, qu'est-ce que ça veut dire d'être déconnecté de Dieu. C'est que nous avons transgressé, et nous avons offensé Dieu. Nous avons transgressé la loi de Dieu et nous l'avons donc offensé. Galates chapitre 3, 10 nous dit que nous sommes sous la malédiction de Dieu. Parce que la loi nous montre le standard de perfection que nous sommes incapables d'atteindre. Donc, si la loi est un pédagogue, une des conclusions que l'Écriture sainte nous amène à avoir, c'est que nous, on est des élèves. Puis je peux vous dire qu'on est vraiment des mauvais élèves. On n'est pas capable de recevoir l'enseignement de la loi comme il faut. On reste convaincu, malgré le fait que la loi nous enseigne qu'on n'est pas capable d'atteindre le standard de perfection de Dieu, on reste convaincu, en tant que mauvais élève, qu'on est capable, par nos propres forces et par nos efforts, d'atteindre ce standard de perfection. Et on voit ça partout autour de nous aujourd'hui. On voit des gens s'efforcer en étant soit très religieux ou en étant très irreligieux, en rejetant la religion ou en embrassant la religion de toutes leurs forces. On voit des gens, par leurs propres efforts, par leurs propres forces, d'essayer d'atteindre le standard de perfection de Dieu. Mais aucun d'entre nous en est capable. On est des mauvais élèves. En effet, on sait à croire un paquet de choses qui sont fausses, un paquet de mensonges à propos de nous-mêmes. On croit qu'on peut vivre nos vies sans Dieu. On croit qu'on peut redéfinir le bien et le mal. On croit que ça n'aura pas d'impact quand on est violent verbalement ou physiquement avec nos enfants. On croit qu'on peut être infidèle envers notre conjoint sans que ça ait de conséquences, désobéissant ou irrespectueux de nos parents sans que ça ait de conséquences. On croit avoir un comportement sexuel déréglé sans que ça ait de conséquences, ni sur nous, ni sur les autres. Je sais que vous savez probablement, dans les nouvelles, vous avez vu tout un mouvement de dénonciation sur les agressions sexuelles qui est sorti avec deux accusations de personnalités connues au Québec, entre autres Éric Salvaille et Gilbert Rozon, et d'autres aussi dans d'autres pays comme aux États-Unis et ailleurs. Et il y a d'autres noms qui ont été mentionnés. Ça a, comme si on veut, commencer tout un mouvement avec le hashtag « Moi aussi » sur les réseaux sociaux. « Moi aussi, j'ai vécu une agression. Moi aussi, j'ai vécu du harcèlement de ce genre-là ou autre. » Et il me semble que tout ça, dans les derniers jours, nous montre à quel point, encore une fois, on a besoin d'être en relation avec Dieu. La Bible nous le dit. Mais on en voit les effets dans notre société, jour après jour. On a besoin d'être en relation avec Dieu. Toute cette envolée de « moi aussi » et de dénonciation nous montre l'ampleur des conséquences lorsqu'on est déconnecté de Dieu, n'est-ce pas? La solution ne peut pas être juste un plus grand respect de la loi de Moïse ou de la loi que Dieu a donnée par Moïse, c'est-à-dire d'essayer par nos propres forces de respecter davantage la loi par nos efforts. Essayer de plus faire le bien et de moins faire le mal. Essayer de mettre plus de bien dans la balance et de moins de mal en espérant qu'on va réussir finalement à être juste devant Dieu. La solution ne peut pas se trouver là. Ça ne fonctionne juste pas. On est incapable de se connecter à Dieu par nos propres efforts et nos moyens humains. On avait besoin que Dieu vienne lui-même nous connecter à lui. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement ce qu'il a fait. Au verset 14, on lit « La parole, Jésus-Christ lui-même, s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. C'est la bonne nouvelle pour Éric Salvaire et pour Gilbert Rozon et pour toutes les victimes qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de toute violence ou de tous ceux qui subissent le péché des autres et qui commettent eux-mêmes des péchés. Oui, la loi a été donnée à travers Moïse, nous dit le texte au verset 17, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu nous connecter à Dieu. Par quel moyen maintenant? Par quel moyen? Par la grâce et la vérité, nous dit le texte. Et on veut examiner davantage qu'est-ce que ça veut dire que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est intéressant que c'est les deux mots ensemble, grâce et vérité. Souvent, on va expérimenter l'un ou l'autre séparément dans nos vies. Soit que quelqu'un va penser que si quelqu'un nous fait grâce, on est en train de nier la vérité. On est en train de nier qu'est-ce qu'on a besoin de dire à cette personne-là. Cette personne-là, elle a mal fait. Il faut lui dire la vérité. Elle a mal fait. Soit qu'on va dire la vérité sans grâce, ou est-ce qu'on va penser qu'en faisant grâce à quelqu'un, on est en train de nier la vérité. Mais le texte ici met les deux complètement ensemble dans la personne de Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Ce n'est pas 50% grâce, 50% vérité en Jésus-Christ. C'est 100% grâce et 100% vérité. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux concepts-là. Par exemple, dans le concept de grâce, comment est-ce qu'on voit le concept de grâce venir dans la personne de Jésus-Christ? Dans l'Évangile de Jean, on le voit à maintes reprises, et c'est toute une trajectoire d'enseignement que Jean utilise dans son Évangile pour nous amener dans la plus grande manifestation de grâce qui a jamais été dans l'histoire du monde, la crucifixion de Jésus à la croix, qui est comme résumé dans le chapitre 3 et le verset 16 de l'Évangile de Jean. On le connaît presque tous par cœur. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la grâce, frères et sœurs. C'est la grâce manifestée en Jésus. Galates 3, chapitre 13, nous dit « Christ nous a rachetés, donc il nous a libérés, un autre mot pour libérer, de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. » Oui, on était, au verset 10, sous la malédiction de la loi, parce qu'on était des transgresseurs de la loi, mais Christ est devenu malédiction pour nous. Et c'est de cette manière-là qu'il nous libère de la malédiction de la loi. Quelle grâce! C'est un amour bienveillant, une bonté de Dieu à notre égard qui nous donne ce qu'on ne mérite pas, une miséricorde qui nous ne donne pas ce que nous méritons. Miséricorde, c'est de ne pas nous donner ce que nous méritons, mais la grâce, c'est de nous donner ce que nous ne méritons pas. Et les deux, c'est comme les deux côtés d'une même pièce. C'est ce que nous avons reçu lorsque Jésus est venu sur la terre et a accompli son œuvre à la croix. Grâce et vérité. Pour agir selon le bien, on a besoin de connaître notre identité, qui nous sommes. Un auteur qui s'appelle Jeff Van Der Stelt fait cette série d'implications-là. La manière dont on agit dans la vie, c'est connecté avec qui on croit être. Si je crois être une chose, je vais agir en conséquence. Si je crois être une autre chose, je vais agir en conséquence différemment. Mais pour savoir qui on est, on ne peut pas juste penser, s'imaginer qui nous sommes par nous-mêmes, s'inventer une identité. Si on existe dans le monde que Dieu a créé, puis on est des créatures de Dieu, on a besoin de regarder à Dieu pour savoir qui on est. C'est Dieu qui va nous dire qui nous sommes, et c'est qui nous sommes qui va déterminer notre conduite et notre manière d'agir. Donc, pour connaître notre identité, on a besoin d'écouter ce que Dieu nous dit. On a besoin de sa vérité. On n'a pas besoin de s'écouter nous-mêmes, on n'a pas besoin de connaître la vérité que nous, on pense. On a besoin de savoir sa vérité à lui, parce que c'est lui qui nous a créés. Ce que Dieu dit corrige nos fausses conceptions sur nous-mêmes et sur les autres, qui nous amènent à changer d'idée, à se repentir. Donc, la repentance dans l'Évangile a besoin de la vérité. On ne peut pas penser se repentir ou changer de comportement ou changer d'idée à propos de Dieu et à propos de nous-mêmes si on n'a pas une source de vérité qui nous amène à changer de pensée. C'est nécessaire, la vérité, pour qu'on puisse se repentir quand on parle de l'Évangile. Changer d'idée sur qui Dieu est, sur qu'est-ce que Dieu a fait, sur qui je suis et qui tu es, et comment est-ce que tu devrais vivre ta vie, sur qu'est-ce que tu devrais faire, nécessite la vérité de Dieu. On a besoin d'avoir, de connaître qui Dieu est, qu'est-ce qu'il a fait, qui Dieu dit que nous sommes, qui je suis et comment Dieu nous invite à vivre nos vies, qu'est-ce qu'on devrait faire. On a besoin de ça. Sinon, on va rester dans le mensonge puis on va rester sous la malédiction de Dieu. C'est comme ça donc que Jésus veut nous connecter à Dieu. Il veut nous connecter à Dieu par la grâce, en nous donnant ce qu'on ne mérite pas, et par la vérité, en nous révélant vraiment qui Dieu est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qui nous sommes et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Si on revient, par exemple, juste pour mettre ça un peu en application ou sur le terrain des vaches ensemble, comme on dit au Québec, ça veut dire on veut savoir comment ça peut faire une différence dans nos vies, ces notions-là, l'idée que Jésus est venu nous connecter à Dieu par la grâce et la vérité. Si on revient à l'exemple, par exemple, l'exemple des agressions sexuelles récentes ou des accusations qui sont sorties, puis toutes ces dénonciations qui ont été faites. De quoi, par exemple, est-ce que les victimes d'agressions sexuelles ont-elles besoin? À la lumière du fait que la loi est venue, a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, de quoi les victimes d'agressions sexuelles ont-elles besoin? J'oserais dire que les victimes d'agressions sexuelles, à la lumière de cette vérité-là, ont besoin d'être protégées. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Ils ont besoin qu'on écoute leur douleur. Ils ont besoin d'entendre qu'elles ont de la valeur aux yeux de Dieu, qu'ils ne sont pas juste des objets sexuels. Ils ont besoin d'entendre que Dieu les aime et que ce n'est pas de leur faute s'ils ont été agressés. Parce que c'est souvent une pensée et un mensonge que les victimes vont se compter ou vont être sous l'emprise de ce mensonge-là, qu'il y avait quelque chose à voir avec ça, c'est un peu de leur faute, et elles se sentent même coupables d'avoir été victimes d'agression. Ils ont besoin d'entendre que Dieu les aime et que ce n'est pas de leur faute. Mais ils ont aussi besoin d'entendre que la vengeance ne fera que les détruire davantage, si c'est le chemin qu'ils veulent prendre. Ils ont aussi besoin d'entendre que le pardon de leur agresseur peut les libérer de l'amertume qui les ronge à l'intérieur. C'est ce que l'amertume fait dans nos cœurs. Ça prend racine dans nos cœurs et ça nous ronge à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est que le pardon de ceux qui nous ont offensés ou agressés peut nous libérer de cette amertume-là. En gros, les victimes ont besoin de la grâce et de la vérité de Jésus. Ils ont besoin de contempler la gloire de Dieu en Jésus et faire appel à Jésus pour être sauvés et même connectés à Dieu. Le verset 14 nous dit, « La parole s'est faite chair, elle est devenue homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » C'est ce que les victimes ont besoin, c'est de contempler la gloire de Dieu en Jésus, manifesté dans la grâce et la vérité qui est venue en Jésus-Christ. D'un autre côté, parlons des agresseurs. De quoi est-ce que les agresseurs sexuels ont-ils besoin? Je pense qu'elles ont besoin d'être stoppées. Selon ce qu'on comprend de la grâce et la vérité qui est venue en Jésus, les agresseurs ont besoin d'être arrêtés et stoppés. Pas arrêtés, bien peut-être arrêtés par la police, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils font, ça l'arrête. Ils ont besoin d'être stoppés. Ils ont besoin d'être empêchés de faire du mal à d'autres. Puis ils ont besoin d'être même punis pour le mal qu'ils commettent aux autres. C'est pour ça qu'on a un système de justice avec un code criminel. Les agresseurs ont aussi besoin de voir que Dieu s'oppose au mal qu'ils sont en train de commettre. C'est la vérité là, qui est là, qui est en train de dire, il y a un bien puis il y a un mal, puis tu ne peux pas mélanger les deux puis dire n'importe quoi. Mais les agresseurs ont aussi besoin d'entendre qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, que Dieu les aime et qu'il veut les libérer de leurs fautes, de leurs péchés, de leurs mauvaises actions, de la rébellion qui est dans leur cœur. Les agresseurs ont besoin d'entendre que même leurs agressions peuvent être pardonnées et effacées complètement par le sacrifice de Jésus à la croix. En gros, les agresseurs ont besoin de la grâce et de la vérité de Jésus eux aussi. Ils ont aussi besoin de contempler la gloire de Dieu en Jésus et faire appel à Jésus pour être sauvés et connectés à Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui font appel au nom du Seigneur seront sauvés. Et dans l'angle des groupes connexion et de l'Évangile de Jean ici, je dis d'être sauvé et connecté à Dieu, relationnellement connecté à Dieu. On est déconnecté par nature et par choix, on est séparé de Dieu, mais Jésus, dans la grâce et la vérité, veut nous connecter à Dieu. Cet exemple avec les agressions sexuelles, je l'ai utilisé parce que c'est quelque chose qui se passe en ce moment dans notre société, dans nos milieux. On en parle, tout le monde en parle. Mais cet exemple, c'est mon exemple aussi. C'est ton exemple. Chacun de nous subit les péchés des autres et aussi fait subir nos péchés sur les autres. Donc, on a tous besoin de la grâce et la vérité à chaque jour de notre vie. Le verset 16 nous dit que nous avons tous reçu de la plénitude de Jésus. Grâce pour grâce. On a contemplé sa gloire et on a tous reçu de sa plénitude. Ça veut dire de toutes ses richesses complètes. La plénitude, c'est qu'est-ce qui est rempli, qu'est-ce qui est plein. Jésus est rempli de bonté, de richesse, de grâce et de vérité, de toute la divinité, nous dit Éphésiens chapitre 2. Et chacun d'entre nous, le verset 16 nous dit, nous avons reçu de ses richesses, de ses bénédictions, de cette plénitude de Jésus, grâce pour grâce. Oui, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Tu vois, le texte nous dit au verset 18 que Moïse n'a pas été capable de voir Dieu. Quand ça dit « personne n'a jamais vu Dieu », juste après avoir dit que la loi a été donnée par Moïse, ça fait référence à une histoire de l'Ancien Testament dans le livre d'Exode, où Moïse avait demandé à Dieu « montre-moi ta gloire ». Puis Dieu lui a répondu « je ne pourrai pas te montrer ma gloire sans que tu meures. Si tu veux voir ma gloire, il va falloir que tu meures. Personne ne peut voir Dieu puis rester en vie. » Mais Dieu a dit « ce que je peux faire, c'est passer puis tu peux regarder le dos de ma gloire. » Fait que Dieu a caché Moïse dans un rocher, puis Moïse n'a pas vraiment pu voir la gloire de Dieu. Il a juste pu voir le reflet, c'est comme le rebondissement de la gloire de Dieu dans un sens, puis Dieu a mis sa main devant le rocher pour pas que Moïse soit trop ébloui par la gloire de Dieu et finisse par mourir. Donc Moïse n'a pas pu voir Dieu complètement lorsqu'il a reçu la loi de la part de Dieu. Mais par Jésus-Christ, je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur puis la grandeur de cette vérité-là, Moïse lui-même, qu'on nous dit qu'il parlait avec Dieu face à face, comme un homme à un homme, n'a pas vraiment vu Dieu. Il a vu comme un reflet, il a vu comme la gloire tamisée, si on veut, de Dieu. Pourtant, quand il est descendu de la montagne, son visage brillait, était éclatant, mais c'était rien comparé à ce que Jésus-Christ nous révèle, parce qu'en Jésus-Christ, le texte nous dit, nous pouvons voir Dieu tel qu'il est. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, au verset 9 du chapitre 14, nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Le problème, et notre problème, et mon problème, c'est qu'on ne vit pas toujours à la lumière de cette gloire-là. On ne vit pas toujours nos vies en correspondance ou en conformité avec le fait qu'on a contemplé la gloire de Jésus-Christ. Qu'on a contemplé sa gloire par la grâce et la vérité qu'il nous a manifestée. Le passage nous raconte comment Dieu s'y est pris pour nous connecter à lui premièrement, c'est vrai. Et c'est grandiose. J'espère que vous pouvez apprécier comment grandiose que c'est de pouvoir maintenant voir Dieu tel qu'il est. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Dieu unique, le Fils, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Il nous a connectés à lui. Mais non seulement que Jésus désire nous connecter à Dieu, et on espère que les groupes connexion vont nous aider davantage à mieux connecter avec Dieu. C'est un peu ça le lien avec les groupes connexion, c'est que oui, on a été connecté avec Dieu, c'est déjà fait. Relationnellement, on est enfant de Dieu, nous dit le verset 12 du chapitre 1. Ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, on a déjà été connecté. Et on sait qu'un jour, on va être connecté pour l'éternité avec Dieu, c'est qu'on va être dans sa présence pour l'éternité. Mais aujourd'hui, entre le déjà et le pas encore, on a besoin de grandir davantage dans notre connexion avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Donc, Jésus nous invite non seulement à être connectés avec Dieu, mais à être connectés les uns aux autres pour qu'on puisse s'entraider à grandir dans notre relation avec Dieu et dans notre connexion avec Dieu. Et même, ça va plus loin, c'est pas juste entre nous. La Bible nous dit que en connectant davantage les uns avec les autres, en grandissant de plus en plus dans notre connexion et notre relation les uns avec les autres, ça va être un témoignage pour ceux qui sont dans la communauté et qui ne sont pas nécessairement chrétiens. C'est de cette manière-là que Dieu veut nous utiliser pour rejoindre même la communauté. Donc, ça commence avec connecter avec Dieu, mais Dieu désire qu'on puisse connecter les uns aux autres. On a besoin de tout ça pour davantage être connecté avec Dieu. On a besoin d'être connectés les uns avec les autres. Puis ça va être un témoignage qui va même aller rejoindre ceux qui sont dans la communauté. Tu vois, dans le verset, dans le chapitre 12 de l'Évangile de Jean, on lit, versets 44 à 46, « Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Il y a une relation de cause à effet ici. Si tu crois en moi, dit Jésus, tu ne crois pas juste en moi, mais tu crois à celui qui m'a envoyé, qui est son Père céleste. Dieu a donc envoyé Jésus pour qu'on le connaisse. Et c'est en connaissant Jésus qu'on connaît son Père. Mais la relation de cause à effet est à deux niveaux. Ce n'est pas seulement on connaît Dieu parce qu'on connaît Jésus. C'est ceux qui sont autour de nous vont, quand ils vont nous connaître, ils vont connaître Jésus et donc ils vont connaître Dieu aussi. Il y a deux niveaux de relation de cause à effet ici. Dieu a envoyé Jésus pour qu'on le connaisse et maintenant, Jésus nous envoie pour qu'on fasse connaître Dieu aux autres. Dans Jean chapitre 13, verset 20, on lit « en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. » Vous voyez la relation de cause à effet? « Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc, si quelqu'un autour de nous nous reçoit en tant que chrétien, dans un sens, il reçoit Jésus, parce que c'est Jésus qui nous envoie. Et celui qui reçoit Jésus, reçoit celui qui a envoyé Jésus, qui est le Père. Une manière un peu plus simple de le voir, dans Jean chapitre 20, verset 21, Jésus dit à ses disciples, « Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Donc, ça ne s'arrête pas à l'idée de connaître Dieu parce qu'on connaît Jésus, mais Jésus désire nous envoyer à son tour comme lui-même a été envoyé. Ça fait référence à l'aspect missionnaire de notre foi. Mais il nous envoie faire quoi au juste? Comment est-ce que on va pouvoir, à notre tour, faire connaître Dieu à ceux qui nous entourent lorsque Jésus nous envoie le faire? Comment ça va se produire? Bien, moi, je pense que ça va se produire exactement de la même manière que ça s'est produit pour Jésus, avec quelques différences près, parce qu'on n'est pas Jésus. Mais je pense que Jésus nous envoie, ce qu'il nous envoie faire, donc le comment est-ce qu'il veut qu'on fasse connaître Dieu à ceux qui nous entourent lorsqu'il nous envoie comme lui-même a été envoyé? C'est en faisant briller la gloire de Dieu dans nos vies, par des vies qui sont pleines de grâce et de vérité, en devenant des imitateurs du Seigneur Jésus. Pensez encore au verset 14. « La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le Père a envoyé le Fils unique, et la gloire du Père a été contemplée par les disciples de Jésus, et nous la contemplons nous-mêmes aujourd'hui lorsque nous lisons la parole. Ce n'est pas juste les premiers disciples de Jésus qui ont contemplé la gloire de Jésus, c'est nous qui la contemplons aussi. Mais tu vois, le Père a envoyé Jésus et sa gloire a brillé. Et nous avons contemplé sa gloire pleine de grâce et de vérité. Et maintenant, c'est à notre tour de briller pour la gloire de Dieu en mettant dans nos vies la grâce et la vérité de Jésus. Dans Jean chapitre 13, verset 34-35, on lit « « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cette grâce de Dieu manifestée par un amour rempli de bonté va être un témoignage pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous allons nous aimer, comme Éric en parlait la semaine passée, les uns les autres, comme Jésus nous a aimés, le texte nous dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Dans Jean chapitre 17, versets 20 à 23, on lit, « Je ne prie pas pour eux seulement, c'est Jésus qui est en train de prier son Père pour ses disciples. » Puis à un moment donné, au verset 20, il dit, « Je ne fais pas juste prier pour mes 12 apôtres qui sont devant moi dans le jardin de Gethsémané. Je ne prie pas juste pour eux autres. Pour qui d'autre est-ce que je prie? » Il dit, « Je prie encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Et ça nous inclut aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous croyons en Jésus, en 2017, à travers les paroles des apôtres de Jésus. Et Jésus, le sujet de sa prière, au verset 21, c'est qu'il prie pour nous afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pourquoi? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus prie pour l'unité, qu'on soit un avec Dieu, avec Jésus et avec son Père, dans le but que le monde extérieur, les non-chrétiens, croient que c'est le Père qui a envoyé Jésus. Au verset 22, il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Non seulement, Jean chapitre 1, verset 14 nous dit, « Nous avons contemplé la gloire de Jésus » comme la gloire du Fils unique venu du Père, mais Jésus lui-même dit, « Cette gloire-là que tu m'as donnée, Père, maintenant, je leur ai donnée. Il me l'a donnée. Il te l'a donnée. Il nous a donné la gloire de son Père, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Au verset 23, « Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, la gloire de Dieu le Père peut être contemplée dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de ses enfants, dans la vie des uns des autres, alors que nous manifestons la grâce et la vérité. Mais comment est-ce que ça se fait, ça, dans nos vies? Comment est-ce que la grâce et la vérité se manifestent-ils dans nos vies? Vous savez, on est tous dans le même bateau, et c'est là l'importance des groupes connexion. C'est que cette grâce et cette vérité-là, c'est très difficile. On ne peut pas la manifester dans nos vies par nos propres forces, par nos efforts humains, c'est impossible. C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est lorsque le Saint-Esprit agit en nous et lorsque nous nous entraidons les uns les autres à faire preuve de grâce et à parler avec vérité que cette gloire de Dieu va briller dans nos vies. Et on a besoin de l'aide des uns des autres, de là l'importance des groupes connexion. On est tous ensemble dans le même bateau. Et on a besoin, dans les groupes connexion, entre autres, de tous ramer ensemble vers la même direction. La gloire de Dieu se voit dans notre manière de manifester la grâce et la vérité à nos enfants, frères et sœurs, à notre conjoint, à nos parents, dans nos relations de tous les jours, à nos collègues de travail. La gloire de Dieu va briller et va se voir dans notre manière de manifester la grâce et la vérité dans tous les domaines de nos vies. Je donne un exemple concret pour les parents, et c'est un des sujets, un des thèmes qui va avoir lieu dans un des groupes connexion. Je fais une promo pour mon propre groupe, parce que c'est moi qui vais enseigner sur ce sujet-là. C'est pas correct, hein? Mais un des sujets, un des thèmes de groupe connexion, c'est comment élever des enfants sans virer fou. C'est vraiment intéressant, ça fait quelques mois que je lis un livre qui s'appelle Parenting. Parenting, comment être un parent ou agir comme parent. Un livre écrit par Paul Tripp. Super bon livre. Et par exemple, Paul Tripp parle de trois outils que les parents utilisent. C'est comme des outils par défaut qu'on prend. Ils sont comme, on les porte sur nous, on les utilise sans même y penser, sans même y réfléchir, pour essayer d'agir avec puissance sur nos enfants pour changer leur comportement. Pour des parents, ça devient très important que les enfants aient un bon comportement. Puis on va utiliser ces outils-là sans même y penser pour essayer d'agir avec puissance sur nos enfants pour que leur comportement se forge à ce qui nous attend puis qu'est-ce qu'on désire pour nos enfants. Ces outils-là, c'est la peur, la manipulation puis la honte, nous dit Paul Tripp. Moi, dans mon cas, celui qui est le plus facile pour moi, c'est la peur. Très facile pour moi d'utiliser la peur envers mes enfants pour les faire agir comme j'aimerais ça qu'ils agissent. En fait, j'ai l'impression bien souvent que c'est très facile pour moi d'intimider mes enfants. On parle de l'intimidation à l'école, on parle de ça dans les cours de récréation, sur la cyber-intimidation, sur les réseaux sociaux, mais honnêtement, l'intimidation est très présente dans ma propre maison. Puis j'en suis l'auteur bien souvent. La manipulation et la honte aussi, c'est des outils qu'on utilise facilement. Ils sont bons dans un sens pour changer le comportement de nos enfants. Je vous dis que quand je fais peur à mes enfants, là, ils changent tout de suite de comportement. Tout de suite. C'est facile. Mais est-ce qu'on a atteint la cible? Non. Si on n'a pas atteint leur cœur, on n'a pas atteint la cible parce que tout commence dans le cœur. Le comportement, ça commence dans le cœur de comment on se comprend devant Dieu, notre identité. C'est de là qu'on va agir, qu'on va parler puis qu'on va agir. Donc, on a besoin de grâce et de vérité. J'ai besoin d'utiliser d'autres outils que la peur, la honte et la manipulation envers mes enfants. J'ai besoin d'utiliser la grâce, de démontrer la grâce envers mes enfants et la vérité. Ça nie pas le besoin de la loi. La loi est quand même là. Si on fait quelque chose de mal, on va en vivre les conséquences. Puis c'est quelque chose qui est une désobéissance envers Dieu. Mais ce que Jésus est venu nous apporter, puis ce qu'on veut qu'il soit manifeste dans nos vies, c'est la grâce et la vérité. On n'est pas encore rendu, mais c'est déjà commencé. Donc, entre le déjà et le pas encore, frères et sœurs, on a besoin de se mettre ensemble pour grandir davantage dans la grâce et la vérité, pour que cette gloire-là de Dieu puisse briller et se manifester dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on vous invite, entre autres, au groupe Connexion. C'est pas le seul moyen de faire ça, c'est pas les groupes. Pas les groupes connexions, c'est pas le seul moyen. Mais c'est un des moyens qu'on voit qui est important de mettre en place dans notre Église présentement pour qu'on puisse s'entraider les uns les autres, connecter avec Dieu, connecter les uns avec les autres, puis connecter avec la communauté, que le monde puisse savoir et voir la gloire de Dieu briller dans nos vies et savoir que Jésus est le Fils de Dieu qui a été envoyé par Dieu pour les sauver et les racheter. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole et pour... tout ce que ta parole, Seigneur, produit en nous, dans nos vies, dans nos cœurs. Merci parce que tu ne nous laisses pas, Seigneur, orphelins. Tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Même lorsqu'on tombe, Seigneur, même lorsqu'on utilise la peur, la honte ou la manipulation avec nos enfants ou même avec notre conjoint, tu ne nous abandonnes pas. Tu continues, Seigneur, à manifester ta grâce dans nos vies. Tu continues à manifester ta vérité. Tu continues à nous la dire. Et Seigneur, tu nous appelles à se repentir lorsqu'on a besoin de le faire. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ton esprit qui agit puissamment dans nos vies et qui veut faire briller ta grâce et ta vérité en nous, Seigneur. Merci. Amen.